Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un album enlevé, drôle et coloré, pertinent et impertinent, peuplé de personnages tous plus attachants les uns que les autres. On y croise quelques commères, plus ou moins bien intentionnés, quelques vendeurs à la sauvette, parfois un peu lourdingues, une coiffeuse aux allures de seconde maman, un père chicoteur surnommé Chien Méchant, des braiseurs de poulets bicyclettes, un chauffeur de taxi sans permis qui roule au gaz avec la bouteille sur le toit de la voiture, un directeur de banque centrale qui joue les filles de l'air, des copines qui rivalisent d'élégance, des garçons chocos qui draguent au maquis et bien d'autres personnages tellement humains qu'ils en sont drôles. Tous nous racontent une histoire, celle de Rukyata, qui dans sa chambre de bonne du quartier parisien de Châteaurouge, dans le 18e arrondissement, prépare sa valise pour son pays natal, le Burkina Faso, ou plutôt prépare ses valises, car dans ces cas-là, il faut bien se rendre à l'évidence, on voyage rarement léger. Ouagadougou pressé de Rukyata Ouédraogo et Odmasso est paru chez Sarbekian, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Odmasso.
Bonjour.
Bonjour petit modèle.
Bonjour.
Je peux vous appeler comme ça, Rukyata Ouédraogo, hein. Bon, parce que petit modèle, c'est le surnom dont vous êtes affublé dans l'album. On vous surnommait vraiment comme ça quand
oui,
vous
vraiment,
étiez gamine, oui.
Oui, 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 tout à fait. Même petit... adulte, hein.
Même encore adulte
bien,
aujourd'hui.
Oui, petit modèle.
Bon, peut-être que vous préférez Rookie.
Oh, Rookie aussi, c'est bien aussi Rookie, oui, c'est très bien, c'est familier, j'aime bien.
D'accord, alors aujourd'hui donc vous êtes Rukyata Ouédraogo, connu pour ses chroniques radio, pour sa plume aussi, hein, puisque vous avez publié un roman, Du miel sous les galettes, et évidemment pour vos spectacles d'humour, vous avez d'ailleurs reçu dans cette émission lors du Festival d'Avignon en 2018, le spectacle s'appelait Je demande la route, il continue d'ailleurs de tourner.
Tu es comme quoi? Comédienne. Vous êtes pleine de bonne volonté, vous irez très loin dans la vie.
Elle n'est pas ici.
Tu crois qu'on a bien fait de la laisser partir? Mais regarde-la, elle est si jeune. Pour les ancêtres, la première gorgée est toujours réservée aux ancêtres. Ah, maman, enfin. Oh, quel bonheur de t'entendre, maman. Qui fait le plus d'humanité en Afrique? C'est nous les immigrés, nous faisons de l'humanité familiale. Le balayeur malien qui balaye tous les jours dans le métro, il envoie beaucoup plus d'argent en Afrique que Angelina Jolie et tous les éphémères.
Et quand on lit l'album Rukyata Ouédraogo, on a un peu l'impression qu'il y a une filiation entre votre parcours scénique et ce que l'on lit. C'est la réalité, on se dit, ah, tel ou tel gag, là, ben, ça marche sur scène. Vous avez rodé votre album sur scène?
Oui, puisque la BD, c'est l'adaptation en fait de mon deuxième spectacle, Ouagadougou pressé, qui j'ai gardé le même nom, voilà, pour la fidélité à l'histoire. Et effectivement, oui, ce spectacle est une part de moi, une part aussi de ce que je vois autour de moi, puisqu'il suffit à Châteaurouge, il suffit de se baisser pour prendre toutes les vannes, toutes les anecdotes.
Oui, il suffit d'écouter, de laisser ses oreilles ouvertes et ses yeux grands ouverts aussi.
Voilà, voilà.
On chope énormément de choses. Mais alors, comment est née l'idée de la bande dessinée? Parce que c'est un médium que vous n'aviez jamais tutoyé jusqu'à présent.
Ah non, pas du tout. C'est une première pour moi. Et en fait, le spectacle a tourné pendant 4 ans. J'ai eu beaucoup la chance de tourner avec les instituts français en Afrique. Et je l'ai joué aussi en France. Et au bout de 4 ans, je voulais avoir autre chose, en fait. Et au lieu de le laisser comme ça mourir de sa petite mort, j'ai préféré redonner une autre vie à ce spectacle-là. Il y avait beaucoup de demandes, en fait. Donc, comme je ne voulais plus la rejouer, voilà, la BD s'est imposée.
Alors pourquoi Odmasso?
Odmasso, parce qu'elle est géniale, elle est exceptionnelle.
Mais comment vous vous êtes rencontrés comme ça? Parce que bon, c'est pas évident, Odmasso. Racontez-nous, justement. Vous étiez déjà une adepte, si j'ose dire, des spectacles de Rukyata Ouédraogo. Vous vous connaissiez ou pas du tout?
Alors, je vais dire quelque chose dont j'ai très honte. Je ne connaissais pas
c'est
Rukyata.
C'est pas possible. Mais faut écouter RFI, vous l'auriez connu avant, vous voyez.
Exactement. Ouais. Non, en fait, c'est l'éditeur de Sarbacane. J'avais déjà fait un livre avec lui 4 ans auparavant qui s'appelait Québecland, qui m'a appelée pour faire ce projet. Et évidemment, il m'a présenté Rukyata. Je suis allée tout de suite voir son travail, écouter ses chroniques sur France Inter. J'ai trouvé ça excellent. Et puis quand il m'a dit voilà, est-ce que ça te tenterait d'adapter ce spectacle en bande dessinée, j'ai dit bah oui. En plus, je connaissais le Burkina Faso puisque j'y étais allée avant. Donc j'étais vraiment ravie d'avoir cette proposition. C'est comme ça que ça s'est fait.
Alors comment vous avez fait justement pour adapter ? Parce que entre le théâtre et la bande dessinée, il y a une petite marge. En même temps, il y a beaucoup de dessinateurs qui nous disent, je sais pas si vous êtes d'accord, Aude Masso, que un dessinateur de BD, c'est un peu un metteur en scène.
Alors complètement. Moi, je trouve que les œuvres les plus faciles à adapter en bande dessinée sont souvent les pièces de théâtre, puisqu'elles sont écrites de manière très audiovisuelle. C'est une suite dialoguée avec des indications de lieux. Donc c'est assez simple. Par contre, Rukiata avait quand même fait un gros travail avant d'adaptation de son texte, puisque comme je le dis à chaque fois, c'est que sur une scène de théâtre, on a une unité de lieu.
Alors là, on voyage beaucoup dans la BD,
voilà,
pour le coup.
Alors, qui fait qu'en bande dessinée, évidemment, si vous faites une scène dans le même lieu tout le temps, à moins que ce soit le concept et que vous faites quelque chose qui ressemble blurré à Dogville ou je ne sais quoi, ça peut être sympa, mais on peut vite s'ennuyer aussi. Donc l'idée, c'est aussi, je suppose que quand tu as adapté ton spectacle, t'as essayé de les imaginer dans des lieux différents et d'étoffer un peu les scènes pour que ça puisse marcher en BD. Il y a beaucoup de personnages dans la bande dessinée
beaucoup.
Aussi.
Beaucoup. Qu'elle interprète elle toute seule sur scène, j'imagine.
En seule en scène, voilà.
On voit ses yeux qui brillent. On sent que vous aimez bien justement changer de peau, changer de personnage.
Il y a plusieurs personnes dans ma tête, fait.
Oui, alors justement, comment vous avez fonctionné tous les deux pour transformer justement ce seul en scène en un album avec, alors, je ne sais pas combien de personnages il y a, mais enfin, il y en a des dizaines et des dizaines, si on rencontre les scènes de foule, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Vous avez commencé par voir le spectacle, Aude Masso, elle vous a livré un scénario clé en main, un texte qui ressemblait à un texte de théâtre. Comment ça s'est passé ?
Oui, alors le texte était déjà très très bien adapté et fonctionnait parfaitement pour être mis en bande dessinée. Et puis après, donc tous les personnages, moi quand je travaille en général, je prends le texte, je commence à faire un découpage, un storyboard, mais j'essaye d'imaginer très vite à quoi ressemblent les personnages. Donc j'ai très vite proposé à Rukiata quelques esquisses de personnages qui figuraient. Et puis on a vu ça ensemble, elle m'a dit voilà, ça me plaît, ça peut-être changer un peu les habits, on a échangé sur les caractéristiques. Et puis une fois que je les ai bien campés visuellement, après je fais le découpage et puis j'affine au fur et à mesure. Mais c'est un peu comme ça.
Mais la trame du récit, Rukiata Ouédraogo, elle n'a pas changé entre la scène et l'album, parce que le récit dans l'album, il n'est pas du tout linéaire, quoi. Il y a des projections dans l'avenir, il y a du rêve, il y a du fantasme aussi, on peut dire ça comme ça. Il y a des retours dans le passé, il y a beaucoup de flashbacks. Ça se passait réellement comme ça sur
exactement
une scène de théâtre.
Exactement, ça se passait comme ça sur scène. C'est vraiment le flashback. Et Aude a réussi à mettre ça en lumière. Elle a réussi vraiment à donner de la couleur et de la vie, quoi, à ces personnages-là qui étaient haut en couleur.
Oui,
sur
j'imagine
scène.
Déjà. Vous connaissez déjà. Un petit peu. Je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus.
Et vraiment, c'est ça qui fait que ça marche. En fait, quand on regarde la BD, moi je l'ai lu. Enfin, quand je l'ai eu entre mes mains, j'ai regardé. J'avais l'impression de me revoir sur scène il y a quelques années. Et elle a fait un travail formidable. Et elle est restée fidèle en plus.
Oui, c'est ça. Il fallait une dessinatrice.
Absolument.
Qui ait la possibilité de mettre son trait au service de l'humour et du dynamisme qui peut y avoir sur
vrai,
scène.
C'est comme si on s'est compris tout de suite, quoi. Quand on s'est vu, on a eu une séance de travail. Aude a fait des propositions, des très belles propositions, et ça fonctionne, quoi.
Alors, vous avez fait, Aude Masso, la prestigieuse école Saint-Luc à Bruxelles, et c'est vrai qu'on sent tout de suite dans votre trait l'influence, quand même, de la bande dessinée franco-belge, hein. Comme on dit, alors je sais pas, peut-être que vous allez hurler ou pas, j'en sais rien, mais moi, j'ai pensé à des dessinateurs comme Turc. Vous savez, Léonard, Robin Dubois, j'ai pensé à Bédu, j'ai pensé à Greg, Achille Talon, d'accord. J'ai pensé à Dupas, Cubitus, mais plutôt l'école Lombard.
Vous avez
des références de ce côté-là ou pas du tout?
Alors, je les ai lus quand j'étais enfant.
Ou Dany aussi, vous voyez.
Oui, après moi je me suis nourrie beaucoup de la BD franco-belge. Je pense que vous dites ça parce que le trait est un peu humoristique.
Ah ben complètement, oui. Voilà, et même après, les positions des personnages, là par exemple...
Oui. C'est très animation.
Effectivement. Ouais. Et là, donc, il y a une scène assez drôle où on voit un personnage, on va dire, assez institutionnel, on va pas tout révéler, mais enfin, qui se retrouve dans une posture, au sens propre, très, très délicate, hein, voilà. Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'exagération du trait d'humour des auteurs que je viens de citer.
Oui, mais en fait, c'est des posings très très exagérés qui font l'essence comique en fait des situations. D'ailleurs, c'est ça que la BD, je pense, apporte par rapport au spectacle. C'est-à-dire que on peut pas tout faire avec un corps humain sur scène non plus.
Oui.
On peut se tordre dans tous les sens, mais bon.
Parce que là, il a la jambe dans une posture assez particulière.
Ça, par exemple, il y a que la BD ou le dessin animé qui peut permettre ce genre de liberté par rapport à la réalité. Mais c'est ça qui était amusant aussi à faire. Et c'est là aussi où j'avais ma part de création. Vous dites au service, mais il y avait aussi quand même des idées que j'essayais d'apporter en plus pour que vraiment la bande dessinée soit une œuvre à part entière par rapport au spectacle.
Et pas seulement le décalque du
spectacle.
Voilà,
c'est ça. Ouais, tout à fait.
Maman, je pense à toi, je t'écris. Trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis. C'est un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places? C'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Charter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au goût de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris.
Africain à Paris, Tiken Jafakoli dans VMDN sur RFI avec une Africaine à Paris, Rukieta Ouedraogo, qui publie avec Aude Masso, qui est également avec nous en studio, cet album intitulé Ouagadougou pressé aux éditions Sarbacane. Alors on va pas raconter la petite allusion, le petit coup de griffe que la mère de Rukie décoche reggaeman ivoirien, c'est juste le temps d'une bulle. Hein. Voilà, un petit clin d'œil sympathique. Il n'a pas encore réagi quand même, Tiken Rukieta.
Non, pas encore.
Pas encore. Bon, ça va peut-être venir. Hein. Voilà, il faut qu'il soit un peu attentif à l'actualité de temps en temps. Bon, en tout cas, Aude Masso, cette Africaine à Paris, elle fréquente donc le quartier de Château-Rouge, dont on a parlé plus d'une fois dans l'émission. Alors, on est sur le flanc oriental de la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de la capitale française. Et après le prologue qui ouvre l'album, c'est là que vous situez la première scène du récit proprement dit. Alors, il y a une première planche plein de pages qui montrent l'animation et les couleurs du quartier. On va y revenir, un quartier très animé. Mais la page suivante, elle nous fait accéder dans ce quartier à travers le métro. Et il y a trois bandes horizontales et qui sont muettes. Pourquoi ce choix du muet ?
Ah ben ça, c'est parce que pour rentrer dans l'album, j'avais envie d'installer une ambiance et de prendre le temps un peu de décrire déjà la foule. Donc la première page, pleine page, qui fait écho à la page qu'on voit avant, à Fada Ngourma, en fait, qui fait miroir.
Voilà, Fada Ngourma, c'est la ville du Burkina Faso où est né le personnage de Rukie.
C'est ça. Et puis après, j'avais envie qu'on rentre dans l'album progressivement, qu'on voit surtout le personnage de Rukieta qui arrive dans le métro.
Alors qu'elle est au milieu de la foule. Voilà, donc il y a déjà énormément de monde sur le quai du métro. Et ensuite, elle prend l'escalier du métro, scène tout à fait quotidienne de la vie parisienne. Et quand on tourne la page, eh bien on est vraiment dans son dos, quoi. On monte l'escalier juste derrière elle.
Oui, alors ça c'est une case, on avait discuté avec Rukieta de ça auparavant, puisque son mari Stéphane avait déjà eu quelques idées, comme il est metteur en scène. Et cette case, je la trouvais vraiment excellente, très très bien pensée. Rukyata qui arrive, on la voit de dos en contre-plongée avec tous les rabatteurs de Château Rouge qui plongent en fait vers elle. Et du coup, on sent bien le harcèlement qu'elle subit quand elle sort du métro.
C'est quand même une scène réaliste, hein, c'est ça.
Ah, mais complètement, oui. Ouais. Vous avez dû vivre ça des dizaines, ah, des dizaines de fois.
quand je pars à Château Rouge.
Tous les jours. Et c'est vrai que dès cette case, qui est donc effectivement pleine page, on sent que vous êtes attendu, on sent qu'ils ont leurs arguments, ces rabatteurs-là, on sent qu'ils ont l'habitude de tchatcher, hein, qu'ils ont eu cette gouaille qui est à la fois très parisienne et très africaine en même temps, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, les vendeurs de rue, ils sont là et on vend absolument tout. Est-ce qu'on peut dire que ce quartier de Château Rouge, là, c'est une petite Afrique à Paris, Rukyata Ouedraogo?
C'est le Little Africa. C'est vraiment, c'est comme si on avait pris une partie d'Afrique, en fait. On a pris plein de pays différents, puisque, en fait, c'est pas que le Burkina, c'est pas que le Mali, c'est pas que le Maroc. C'est vraiment tous ces pays-là qu'on a pris et qu'on a, on s'est dit, tiens, il y a Paris ici, où est-ce qu'on va mettre Château Rouge? Paf, on le met là. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce quartier. C'est vraiment, il y a tellement d'ambiance, ouais, quoi.
C'est on multiculturalisme.
Exactement.
Oui. Oui, alors
on peut, tout le monde cherche.
Voilà, donc c'est très coloré, c'est très animé, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a les couleurs, il y a les odeurs.
Ça, et chacun cherche
de
à trouver sa petite place, à vendre un truc.
Beaucoup de contrefaçons d'ailleurs au passage.
aussi,
on s'en doute un petit peu. Hein.
beaucoup, beaucoup.
Bon, ils sont pas toujours très fins quand même, ces rabatteurs. Hein,
on peut se sentir un peu agressé, oui.
Oui, parce que quand Rookie les repousse, ils passent vite du compliment
au
colibé. Voilà, à l'insulte. Voilà. Est-ce que vous parleriez de harcèlement de rue? On peut dire ça comme ça?
Oui, on peut dire ça comme ça, comme l'a si bien dit Aude. Oui, effectivement, oui, ça, on dénonce ça parce que parfois on y va, on n'a même pas envie de se coiffer, on va juste parce qu'on a un rendez-vous, parce qu'on est pressé, il y a quelque chose d'urgent, et ces gens-là, t'attrapent et veulent absolument te vendre quelque chose ou te faire acheter quelque chose que t'as pas envie. Donc oui, c'est un peu de l'harcèlement, oui.
Alors Rookie, elle sait quand même manœuvrer. Hein,
petit mais costaud, donc elle ne se laisse pas faire. Hein.
Voilà, et elle trouve refuge, si j'ose dire, mais elle ne fuit pas. Hein. Elle continue de marcher de son pas tranquillement dans son salon de coiffure habituel qui s'appelle Jésus Brushing. Alors ça, déjà, rien que le nom du salon, c'est quand même déjà assez gratiné. Mais en fait, ce n'est pas seulement un salon de coiffure, quoi. C'est un peu comme l'église ou la mosquée, quoi. C'est vraiment un lieu de rencontre. On a presque l'impression que c'est le centre névralgique du quartier.
Absolument. Vous savez, un salon de coiffure, je pense que même un salon de coiffure normal, pas que à Château Rouge, c'est un lieu où des gens viennent parler, échanger, et même c'est comme si on s'allongeait sur le divan du psy, quoi. La coiffeuse qui est là recueille tout, elle encourage ses coiffeuses, elle les protège aussi,
c'est la maman, c'est le maire du quartier, c'est le curé ou l'imam, c'est tout en même temps, quoi. C'est l'assistante sociale aussi, extraordinaire.
Il se passe tellement de choses dans un salon de coiffure, c'est extraordinaire d'aller s'asseoir là et d'écouter toutes ces femmes.
Vous êtes allé dans un salon de coiffure comme le Jésus Brushing de Masso?
Je connais très bien la Goutte d'Or, moi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui
pas très loin, ouais.
Moi, j'habite depuis 15 ans à Paris, donc je sors tout le temps, très souvent là-bas. Et je sais pas si je suis déjà rentrée dans un salon de coiffure dans ce quartier.
Parce que ça peut faire peur, hein, quand on est blanc. Parce qu'il y a une scène qui se passe comme ça. Il y a une femme blanche, alors vous êtes brune, mais.
Pour le coup, moi, ça me dérangerait pas du tout. C'est juste que c'est pas. Moi, j'habite dans le 19e, donc je vais dans le coiffeur de ma rue, mais si j'habitais à la Goutte d'Or, je pense que j'y serais allée. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Mon copain est guadeloupéen.
Mais de là à rentrer dans le salon pour une blanche, ça choque les gens. La réalité, Rukyata
Ouedraogo. Oui, parce qu'on se pose la question tout de suite, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut contrôler les papiers ou pas? Parce qu'on voit déjà.
Et si elle était de l'immigration? Panique à bord.
Voilà. Donc ça peut créer des embouteillages dans le salon de coiffure.
Ouais,
voilà.
C'est surtout ça.
Ouais, mais on sort quand même que la coiffeuse qui s'appelle Tempérance, c'est géré. Hein, c'est bien qu'on puisse dire. Il n'y a pas de problème. Et puis elle a cette facilité de parole.
Enfin, absolument. C'est une femme qui est dure à la fois, mais qui a cette tendresse aussi, cette générosité en elle. Elle est Elle est formidable, Tempérance.
Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment un personnage très, très, très fort. Et juste après une scène qui se passe justement dans ce salon de coiffure, elle sort. Rocky, elle sort dans la rue. Au passage, on apprend qu'elle a passé quand même 6 heures dans le salon, ce qui est quand même déjà une information importante et pas complètement anodine. Et on arrive aux pages 36-37. Et je voudrais que vous nous commentiez ces deux pages-là, Aude Massot, parce qu'il y a vraiment un changement d'ambiance radical. Et en même temps, très court.
Oui, bah après, en fait, c'est Rukyata qui sort du salon de coiffure et qui marche simplement en sortant de chez, enfin voilà, pour rentrer chez elle, je suppose. Et du coup, là, elle croise une foule de gens qui se mettent à courir vers elle en criant « Police, attention, la police, la police, la police ». Voilà. Et en fait, après, on se rend compte qu'ils sont coursés par la police.
Ouais.
Voilà.
En quoi cette scène-là était nécessaire, Rukyata ou Edraogo? Parce que je le dis, elle est très fugace, elle est très brève. Vous auriez pu faire beaucoup plus long sur cette scène-là. C'est pas le choix que vous avez fait.
Non, et je trouve que Aude a très bien résumé la chose parce que, en fait, ça laisse aussi l'imaginaire des autres, des gens voir ce que vivent certaines personnes. C'est une scène que j'ai vécue. Je me suis plaquée contre un mur pour laisser passer...
Je l'ai déjà vu aussi, moi.
Pour voilà, laisser passer ça. La police avec les matraques à la
main. Mon mari l'a vécu aussi. Une fois, je l'ai envoyé acheter du gombo à Château Rouge. Il l'a vécu aussi, cette scène-là. Et c'est une scène, je pense, que c'est une scène qui se déroule tous les jours.
Bon, les habitants du quartier, en tout cas, je pense, voient très bien de quoi il s'agit.
Exactement. Et ça montre aussi que comment la police court après les gens, juste parce que ces personnes ont juste besoin de vendre 2-3 trucs pour gagner leur vie. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas de travail et qui ont juste besoin de manger. Mais voilà, c'est pas possible de manger et la police les court après et ces pauvres personnes jettent les petits produits qu'ils ont, quoi. Donc, c'est une scène triste à la fois drôle, là. C'est voilà, et Aude l'a tellement bien dessiné que on n'a pas besoin d'expliquer la scène, on la comprend en fait, hein, ouais. Même si on l'a pas vécu.
Et maintenant dans VMDN, un petit medley. Alors je vais vous demander, mesdames, d'être assez attentives et de nous expliquer après ce qui unit toutes les voix qu'on va entendre.
Be determined. Be hopeful. Be empowered. Empower yourselves with a good education. Then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise.
Ce sont des femmes, ça c'est clair, mais il y a aussi un autre point commun entre toutes ces femmes.
Le métissage,
la
diversité.
Non, c'est le nom des coiffures. C'est le nom des coiffures qu'on rencontre dans le salon.
Ah, puisque, donc, Beyoncé.
Voilà, tu me fais une.
Ah,
tu me fais
pas
une,
mal.
Voilà, Tempérance, tu me fais une Beyoncé, tu me fais une Shakira, tu me fais une Michelle Obama.
C'est ça, effectivement.
Tu me fais une Tina Turner, tu me fais une Mireille Mathieu.
Des femmes fortes, t'as vu?
Voilà, ou tu fais une Lady Gaga. Alors, c'est plus compliqué, Lady Gaga,
oui.
Quand même, Rukyata ou Edraogo. Donc, vous, quand vous allez chez une coiffeuse afro, vous demandez une quoi?
Une Rukyata, parce que j'ai ma coupe maintenant, oui, voilà.
D'accord.
Moi, je saurais pas quoi demander.
Bon, c'est important quand même la coiffure, hein,
Non, mais ma coiffeuse, elle sait. Je viens, j'arrive. Ah, en fonction de mon moral, hein, quand elle voit que j'ai pas le moral, elle sait quoi me faire. C'est un psy, en fait, ma coiffeuse. Elle est exceptionnelle et je la salue d'ailleurs. Mélanie Coiffure, bisous.
Ça voilà. Donne envie quand même d'aller dans un salon de coiffure de la Goutte d'Or, je trouve.
Oui, alors moi, évidemment, j'ai moins l'occasion de le faire.
Mais
bon, c'est promis que je vais essayer. Puisqu'il y a des perruques aussi, hein, puisqu'on
oui,
on essaie.
Hein,
voilà, donc voilà, bon, on sait jamais. Bon, en tout cas, la coiffure, quand on rentre au pays, c'est quand même très important. Hein, importante aussi les tenues vestimentaires. Hein, Rukyata ou Edraogo, on sent au passage, hein, à Château Rouge, la concurrence entre les sapeurs congolais et les couturiers d'Afrique de l'Ouest.
Mais oui, mais qui va se négliger? Surtout quand on rentre au pays, on a envie que tout le monde nous voit.
Oui,
on a envie
il faut faire pâlir d'envie les copines avec la coiffure,
exactement,
avec les tenues. Il faut étaler la richesse, c'est une question d'argent, c'est une question de réussite sociale.
Bah, vous savez, quand on est émigré, c'est quand même très très dur. Parce que la famille au pays pense qu'on est riche. Et parfois, trop malheureusement, moi c'est pas mon cas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de copines qui en prennent pour voyager, pour aller étaler les richesses là-bas. Voilà, parce que c'est important, parce que si elles arrivent sans avoir quoi que ce soit, on va peut-être les insulter, les dire qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils ne sont peut-être même pas en France. On voit
radins.
Comme ça, voilà, qu'ils sont radins. Et malheureusement, ça entraîne des gens à s'endetter lourdement. Et ça, c'est vraiment, oui, bah, c'est triste. Hein.
Oui, mais bon, c'est vrai que tout le monde veut des cadeaux. Hein, quand
ah,
on
bah,
sait
ça,
que
contre, oui,
la Parisienne revient au pays, oui. Là, il faut prévoir de la place dans ses valises.
Moi, je sais que si je rentre chez moi sans ramener des cadeaux, on me remet dans l'avion le jour même et on me dit retourne à Paris.
Bon, et Rocky se souvient que c'était déjà comme ça quand elle était toute gamine, quand son frère, qui s'appelle Idriss, c'est ça, était à Paris. Au passage, un petit clin d'œil, je vous remercie juste pour ça, un petit clin d'œil très sympa à RFI, puisque Idriss appelle, il y a une scène où il dit bon bah il va passer à RFI, il va passer à la radio, et ça c'est vraiment un événement considérable, hein. ça c'est très sympa. Alors en fait quand même au Burkina et à Châteaurouge, on se rend compte très très vite que le coût de la vie est très différent. Il n'y a pas de délestage d'électricité en France, en tout cas pour l'instant, ça viendra peut-être. La température, elle n'est pas tout à fait la même. Mais finalement, la fracture entre les deux pays, elle n'est pas si grande que ça.
Non, c'est pour ça que je trouve que c'est un miroir qu'on tend vers l'autre monde, en fait. Et je dis parfois que quand on essaie de se regarder en face, on finit par comprendre qu'on n'est pas si différent que ça. On a les mêmes choses. Il faut juste s'ouvrir aux autres et puis accepter aussi de donner la chance à celui qui arrive de trouver sa place, de l'écouter, parce que je pense que trop souvent on néglige en fait les gens, on néglige beaucoup, alors que quand on écoute l'autre, l'étranger, il a parfois beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut voir sa part d'humanité, et c'est ce qui ressort un peu aussi dans cette BD, c'est un peu ce partage là voilà.
Les coqs chantent, le jour paraît, tout s'éveille dans le village. Pour que le bon couscous soit prêt, femme debout et du courage. Pilon pam pam, pilon pam pam, pilon gaiement.
Petite comptine que vous ne connaissiez pas, Rogata Ouedraogo, c'est ça?
Comment?
Que vous connaissez depuis finalement...
Ben oui, que je connais depuis
longtemps.
Depuis toute petite, oui, ma mère chantait ça. Oui,
bon,
c'est ma mère qui m'a appris cette chanson.
Voilà, et d'ailleurs, il y a une case dans l'album, on voit la mère qui la chante dans cet album Ouagadougou Pressé que vous publiez avec Aude Masso aux éditions Sarbacane. Alors, c'est une tradition, Aude Masso, dans cette émission, quand on reçoit un dessinateur de BD, on lui demande toujours de nous expliquer comment il ou elle a conçu la couverture. Alors, c'est votre tour.
Ah, la couverture. Écoutez, en général, c'est le fruit de... Soit ça arrive d'un seul coup, soit on galère pendant des mois avant de la trouver. Donc là, pour le coup, je crois que c'est arrivé quand même assez simplement, mais j'avais plusieurs idées. Et puis, je les ai proposées, puis on a fait un choix, après, avec Rukata et puis l'équipe de Sarbacane, pour savoir laquelle était la plus pertinente.
Donc, on a Rocky au milieu de la page.
Voilà. Bah, du coup, celle-là est apparue comme assez pertinente parce qu'elle véhicule bien l'idée du voyage, de l'arrivée à l'aéroport. Comme c'est un album où il y a beaucoup de personnages, on a les personnages de la famille qui sont là, qui attendent. Du coup, ça donnait... Enfin, ça reflétait bien le contenu, je trouvais.
Voilà, donc avec le personnage entouré de toutes ces valises, j'ai pas compté, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes. Et on voit tout de suite aussi, dès la couverture, combien l'album est coloré et combien les physionomies des personnages sont expressives. Comment est-ce que vous avez choisi les couleurs, Aude Masso? Parce que c'est très important, ça.
Alors, comment j'ai choisi les couleurs? J'ai fait des palettes, en fait. J'ai tout. En fait, cet album est fait entièrement sur Photoshop en numérique. Du coup, j'ai fait mon trait d'abord, et puis après, quand je fais mes couleurs, je marche par ambiance. Donc, au début, vous avez l'ambiance à Paris. Donc là, je fais une palette qui va être vraiment pour les scènes à Paris. Et puis après, il y a l'ambiance Burkina, où là, je fais une deuxième palette. Et puis après, il y a différents lieux, donc il y a les ambiances de nuit, c'est encore une autre palette. Et du coup, je compose comme ça différentes ambiances qui vont se retrouver plusieurs fois selon les lieux.
Même les arrière-plans sont colorés. Hein. Il y a très très peu de cases avec un arrière-plan blanc. Ça existe, mais il y en a très peu.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'avais choisi vraiment de colorer massivement cet album pour représenter le Burkina Faso.
Alors pour la carnation de la peau, pour la peau noire, comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'on sait que c'est une question qui parfois est assez sensible par
ça,
les temps.
Ça c'est une très très bonne question. D'ailleurs c'est vraiment sensible et en tant que dessinatrice de couleur blanche, c'est vrai que j'avais vraiment pas envie de tomber dans les stéréotypes. C'est ça qui était au début un peu challenge, on va dire.
Même si on est dans une BD d'humour, hein, vous avez fait attention
bien
à ça.
Bien sûr, oui, non, pas être grossier, pas être dans la caricature, faut faire attention, oui, à pas tomber dans les caricatures colonialistes, grosses lèvres, sourire, banania et tout ça. Voilà, donc ça on oublie, surtout en ce moment. Donc non, essayer de retrouver vraiment déjà de l'empathie pour les personnages. Qui souhaitent couleur noire ou blanche, moi je fais toujours très attention à comment je dessine les gens. Et après pour la carnation, comme vous le dites, en fait, on parle de couleur noire, couleur blanche, mais ça veut rien dire puisqu'en fait
il y a différentes teintes, hein, il y a différentes nuances.
Bien sûr. Et puis le noir n'est pas noir et le blanc n'est pas blanc. Donc évidemment que même parmi les populations africaines, il y a des gens qui sont très foncés, d'autres plus clairs. Et du coup, j'ai voulu aussi essayer de retranscrire ça avec justesse. J'espère que c'est le cas.
Oui, d'ailleurs la question de l'éclaircissement de la peau est traitée hein, dans une des scènes de la loi, dans la dernière partie, ce qui se passe dans un rayon cosmétique d'un grand magasin parisien. Vous avez vraiment travaillé dans ce genre de commerce, au Kataouedraogo, oui.
Oui, effectivement.
Donc ça aussi, c'est biographique.
Ah oui, absolument. Ça, c'était quelque chose qu'on avait quasiment tous les jours. C'est drôle à dire, mais c'est triste, en fait, parce que les femmes blanches, de couleur blanche, veulent avoir la peau beaucoup plus foncée, donc elles utilisent des produits un peu plus foncés. Et les femmes noires, de couleur noire, veulent se blanchir la peau et elles veulent des couleurs...
On n'est jamais content,
voilà.
Ce qui en dit long, effectivement, sur la société dans laquelle on vit.
Oui.
Donc, avant d'être diplômé du cours Florent, vous avez donc travaillé dans une boutique de cosmétiques.
J'étais maquilleuse, oui.
Voilà, vous avez été caissière et nounou aussi.
C'est effectivement, et femme de ménage aussi, mais ça a duré une journée.
Ça a duré une journée. Ah bon, pourquoi? Parce que vous ne faisiez pas le ménage, vous n'aimez pas faire
la poussière? Non, je faisais très bien le ménage, mais c'est que j'étais pas bien payée et puis c'était de l'esclavage, donc j'ai dit non.
D'accord. Alors dans cette scène de la parfumerie, pour trouver un petit peu plus de sourire, une de vos camarades se moque de vous, Okata Ouedraogo, et se moque surtout de votre accent à couper au coupe-coupe. Alors on l'a entendu depuis le début de cette émission, vous avez rien fait pour le dissimuler, votre accent, il n'y a pas de raison.
Non, c'est mon accent, et puis je le porte comme il est, et puis je l'accepte comme il est. Maintenant, avant j'avais beaucoup de mal parce que j'étais beaucoup indexée, beaucoup... Au mieux, on me disait que c'était charmant et qu'on rigolait, mais au pire, on me négligeait. C'était vraiment du mépris qu'on avait vis-à-vis de moi. Et c'était très, très difficile, d'où la raison aussi que j'ai fait du théâtre pour apprendre à parler, être beaucoup plus à l'aise avec aussi la langue française et avoir un peu plus confiance en moi.
Oui, mais donc c'est quelque chose qui vous a handicapé au début de votre
carrière.
Ah,
au début, ça m'a beaucoup handicapé, oui.
Ça vous a fermé des portes.
Ah oui, ça m'a fermé beaucoup de portes. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus sûre de moi, j'ai beaucoup plus confiance à mon accent et à moi-même. Et puis, aujourd'hui, je fais des choses grâce à mon accent.
Oui, c'est l'accent passe mieux dans l'humour et c'est aussi un ressort.
Pas que dans l'humour, hein. Je pense que j'ai fait aussi des choses. Dernièrement, j'ai fait un film documentaire, une fiction documentaire qui s'appelle Grain d'espoir, et j'ai eu la chance d'être contactée par le réalisateur et j'ai joué dedans, mais j'ai aussi fait toutes les voix du film et tout le monde est ravi. Donc, non, aujourd'hui, c'est un atout et je le porte haut et fort et je le crie.
Oui, bon, en tout cas, on entend les accents en tournant les pages de la BD. Alors, on imagine les gens parler, parce qu'évidemment, c'est adapté du théâtre. Donc, il y a toute cette oralité hein, qui ressort effectivement des dessins. Il y a l'accent, donc, et puis il y a aussi la langue. Et ça aussi, c'est un des grands plaisirs de la lecture. C'est le vocabulaire employé par les personnages. Alors, il est très imagé. Il est aussi très ancré, j'allais dire, dans le parler des Africains. Mais c'est plutôt dans les parler des Africains de Paris. Ou du Burkina, alors évidemment Rocky chip régulièrement, on pouvait pas faire moins. Voilà, j'ai noté quelques expressions savoureuses quand même. Le métro de Paris va me cadavérer. Alors cadavérer, ça c'est une expression qui revient très très souvent. Ça veut dire il va me tuer. Hein.
Oui c'est ça.
Chaleur va me cadavérer, le métro va me cadavérer, le travail va me cadavérer, enfin tout quoi. Voilà. Je suis moisi.
Oui.
Ça veut dire j'ai plus un sou, c'est ça?
C'est ça, effectivement.
Voilà, mon poste est gâté, donc il est abîmé. Alors ça, c'est à propos d'un poste de radio. Voilà, un poste photovoltaïque, ce qui est aussi l'occasion d'une petite scène particulièrement sympa. Mais il y a des expressions qu'on comprend sans doute un petit peu moins intuitivement. Alors Baptiste Antoine a essayé de soumettre quelques-unes de ces expressions à des collaborateurs de RFI en leur demandant d'imaginer ce que ces expressions pouvaient signifier. Et parfois, il a été surpris.
Il y a du margouillet dans la marmite. Alors je dirais qu'il y a un pépin dans la recette en fait. Il y a un truc qui n'a pas tourné rond.
Ça peut vouloir dire il y a des petits loustiques là qui viennent faire les oseaux.
Du beurre dans les épinards.
Une marmite qui blougloute.
Ça va mal aller. Il y a quelque chose de mauvais qui se prépare.
Il y a hippopotame sous gravillon.
Il y a une couille dans le potage ou il y a de la friture sur la ligne. Donc dans les deux cas il y a un problème.
Vous êtes le propriétaire de la marmite et il y a un margouillat qui est accroché dessus. Les enfants veulent bien lapider le margouillat, mais ils ont peur du propriétaire de la marmite.
Oui, je ne sais pas ce que c'est que le margouillat, mais en tout cas, le margouillat n'a, à mon avis, rien à faire dans une marmite.
Bon, alors, c'est traduction, Roquetaouedraogol. Du margouillat dans la marmite, ça veut dire quoi?
Anguille sous roche.
Anguille sous roche, tout c'est simplement. Ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de
caché. Il y a quelque chose qui est caché quelque part, voilà, qu'on veut bien savoir. Bon. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, et le margouillat, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un lézard.
Oh, c'est le lézard, oui.
Voilà,
oui.
Tout simplement. Nouvel exemple.
Je l'ai acheté à Yugu Yugu, alors j'imagine que c'est un fantasme. Je l'ai acheté nulle part en fait, je l'ai trouvé ou je l'ai fabriqué moi-même.
C'est comme la poudre de perlimpinpin peut-être. Ça veut dire qu'il l'a acheté à un endroit qu'il ne veut pas nous donner parce que Yugu Yugu ça n'existe pas je pense.
Donc je l'ai acheté à Yugu Yugu, débrouille-toi avec ça.
Je l'ai acheté à Dash ou au Diable Vauvert. C'est très très loin et c'est tellement loin qu'on ne sait pas où c'est.
Bon, vous avez déjà acheté des trucs à Yugu Yugu, Odmasso, non?
Eh bien, figurez-vous que oui, parce que j'étais au Burkina Faso.
Bon, et donc, alors c'est où Yougou Yougou, parce que j'ai cherché sur une carte, j'ai pas trouvé. Hein.
Ouais, c'est comment on peut dire le bazar local.
Oui. Une fripe, c'est ça, oui.
Oui, c'est une fripe, oui. Voilà, oui, c'est les vêtements, ça. En fait. En fait, Yougou Yougou, c'est le nom que ça fait, en fait. On imagine que quand on soulève le vêtement, parce qu'en fait, c'est un tas de vêtements posés par terre.
Oui, en fait,
et les gens attrapent. Donc, quand on attrape, on fait Yougou Yougou comme ça pour que les autres tombent. Et puis, voilà, on sélectionne. Donc, c'est un
et
peu.
Moi, je l'ai fait, ça. Je suis allée chercher mon pagne. Avec tout le monde qui cherchait en même temps. C'est vrai que c'est assez rigolo à faire.
On va gâter le coin. Ça, c'est vraiment l'expression. Genre, on va tout tuer. J'adore.
On va vraiment mettre l'ambiance. On va peut-être même mettre un peu trop d'ambiance. Je pense que les voisins ne vont pas s'en remettre.
Moi, ça m'évoque l'envie de danser.
Genre, il a abusé, quoi.
Ici, moi, quand j'écoute les jeunes autour de moi, ils me disent ça va être une méga teuf.
On va foutre un peu le souk, pour parler vulgairement. C'est même le titre d'une chanson.
Bon, pas de surprise, là, tout le monde avait à peu près bon.
Oui, c'est ça.
Bon, allez, une dernière pour la route.
Il faut faire le chat noir. Est-ce qu'il faut être vigilant? Est-ce qu'il faut faire attention?
Peut-être l'équivalent de l'oiseau de mauvaise augure. Il faut à un moment dire quand quelque chose va mal et assumer.
Synonyme de malchance, donc peut-être causer des problèmes à quelqu'un, ce qui est mal. Hein.
Ça me donne l'impression que ça veut dire qu'il faut faire le méchant.
Faut faire le mytho, quoi. Faut pas être honnête. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
De faire perdre une équipe en football.
Recroqueviller sur soi et pas parler aux autres. Faut faire le chat noir.
Faut se planquer, bien sûr.
Bon, alors là, personne n'est d'accord. Vous voyez, là, on a des explications extrêmement différentes.
Il y a des bonnes réponses. En fait, le chat noir, c'est se cacher doucement dans un petit coin et de partir à petits pas de chat.
D'accord, donc filer à l'anglaise,
disparaître
de façon
dans le noir.
Discrète, voilà, dans le noir. On pourrait aussi ajouter, parce qu'il y en a plein d'autres hein, expressions comme ça, tu ne sais pas que c'est dur même pour les benguistes. Alors là, vous m'avez plongé dans des abîmes de perplexité. Ça, c'est ivoirien, hein,
oui, aussi.
D'origine.
Bah, on est des pays voisins, donc la langue voyage. Hein.
Voilà, même pour les benguistes, c'est-à-dire même pour ceux qui sont partis.
Oui, les benguistes, c'est les Europe. Parisiens.
C'est les Parisiens.
Oui, oui.
Voilà, tu es devenue toute menin-menin.
Mené-mené.
Ah, voilà, très bien. Vous le dites avec l'accent, c'est,
oui,
c'est forcément beaucoup mieux.
Oui, et le geste qui va avec aussi. Mené-mené.
Oui, voilà, on est à la radio, alors décrivez-nous le geste là, parce que ça se voit pas.
Mené-mené. Je sais pas comment décrire, mais en tout, c'est avec élégance. Donc, mené-mené, c'est joli, bien pimpante, quoi, qui brille.
Voilà. Bon, et puis c'est pas vraiment une expression, mais je trouve que l'explication est très intéressante, c'est ce sachet noir.
Le fameux,
alors, le fameux sachet noir que le père de Rocky apporte à sa femme un soir où il rentre tard, c'est quoi cette histoire de sachet noir au Kata Ouedraogo?
Ben, tous les hommes à Ouaga savent ce que c'est que le sachet noir. Toutes les femmes aussi connaissent maintenant ce que c'est que le sachet noir. En fait, c'est quand l'homme sort, il veut aller faire la fête avec des amis ou aller boire un coup, il ne veut pas que sa femme se rende compte. Il va, ou pour se faire pardonner, pour que sa femme ne l'engueule pas, à la fin, il l'enveloppe du poulet, et bon, le problème des sachets noirs, je n'encourage pas du tout l'utilisation non, des sachets noirs, ouais. Voilà. Mais voilà, mais tout se met dans un sachet noir, donc le poulet enveloppé dans un sachet noir, et il arrive tout doucement, il arrive devant sa femme, et il lui donne le... Dès quand il tend le sachet noir, ben tout est réglé, la bon. Femme ne peut plus l'engueuler.
Bon, il a un petit peu peur de sa femme, ben hein, oui. ce papa, et pourtant il est assez terrible comme ce père qui chicote sa fille, qui s'en prend à tout ce qui tourne un peu autour d'elle. Tout est traité évidemment de façon assez légère, de façon humoristique, mais quelque part il y a aussi une vraie critique de ce que l'on pourrait appeler une forme de, pas forcément de violence intrafamiliale, mais quand même de patriarcat en tout cas, de dictature de l'homme.
Bah oui, il n'y a qu'à voir les sociétés africaines, hein, la tradition, tout ce qui est... tradition en Afrique, c'est porté par les hommes. Les femmes doivent se battre 2-3 fois plus que les hommes. Elles doivent imposer aussi leur vision, leur façon de voir les choses. Et dans cette BD, les femmes aussi prennent le pouvoir. Elles ne portent pas la culotte. Mais vous savez, la femme en Afrique, c'est une femme qui a son pouvoir. Elle connaît son pouvoir. Dès qu'une femme c'est de quoi elle est capable. Elle n'a pas besoin de gueuler, elle n'a pas besoin de monter le ton fort. Je pense que les hommes, les femmes laissent croire aux hommes qu'ils ont le pouvoir alors que c'est elles qui gèrent tout. Oui. Donc voilà, quoi, on dit que c'est... Bon, la femme, c'est le ceinture qui porte le pantalon de l'homme.
Bon, c'est vrai qu'elle est aussi féministe, hein, cette BD antiraciste, oui. Évidemment. Est-ce qu'elle vous inquiète, Rocketa Ouedraogo, la façon dont la pré-campagne présidentielle a commencé en France?
Oui, ça m'inquiète beaucoup, oui.
Vous reconnaissez la France telle que vous l'avez découverte, telle que vous l'avez peut-être appréciée?
Non, pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec tout ce qui se passe aussi. Les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose aussi. Donc, je pense que le fait de donner la parole à certaines personnes dans des médias font que les gens ont très, très peur. Donc, je pense que la peur n'est jamais bien, en fait. Ça ne fait qu'entraîner des choses, engendrer la colère, engendrer la violence, malheureusement. Mais j'ai de l'espoir. Je pense que les gens ne sont pas... Enfin, oui. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne vais pas dire des gros mots, mais je pense que les gens...
On a compris.
Oui,
on
voilà.
A compris.
L'être humain est assez intelligent.
Voilà.
Disons
voilà.
Qu'il y a toujours ce que pensent les gens dans une population ne sont pas forcément reflétés parce que véhiculent les médias, heureusement.
Exactement.
Donc oui, moi aussi, j'espère que les gens seront intelligents, et je suis sûre qu'ils le sont.
Oui, ils le sont.
Par rapport à ce qu'on dit dans les sondages.
On a confiance en vous,
oui.
Les gens.
Voilà, et bien on va terminer sur ce message optimiste. Merci beaucoup à toutes les deux, Rocketa Ouedraogo et Aude Masso, Ouagadougou Pressé aux éditions Sarbacane. Un album que vous allez pouvoir gagner, vous qui nous écoutez, en répondant à la question suivante, en message privé bien sûr, à partir de la page Facebook de l'émission. Dans quel quartier de Paris habite la jeune rookie Baptiste-Antoine encore lui? Faut pas répondre. Baptiste-Antoine encore lui attend vos réponses.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfungeba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, ngo katapanda. Juu ya kegi make tupa na maganja.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.
Yeah, uvia na umpebe pia. Ia leo na lazima talipia. Unapika mungu pia, kwani uko on love pia. Mioni charity, wosha skia. Shake tusi mimi, kwani shake tusi pia. Jai kunya pia ukaanza kulia. Ni kama chonte kuna vitu unapitia. Ndunge zake mbili, nitalipia.
Leo ni sato ama sande. Tutulianza kukunywa ona mande. Kila siku inakuanga shere. Imefanya mina pipi tukosane. Pombe ya kisirani. Tulikunywa tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani.
nani ama ni bibi ya jirani.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Bado unataka bia?
Buda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Matata featuring Bensoul et Nviri The Solir The Storyteller dans VMDN sur RFI. Voilà qui nous emmène au Kenya. Notre correspondante à Nairobi, Charlotte Simonard, s'est intéressée à un programme télévisé devenu culte au Kenya, le XYZ Show. Une émission politique satirique qui met en scène des marionnettes directement inspirées par Feu, l'émission française des Guignols de l'Info. Les acteurs clés de la société kenyane et internationale y sont tournés en dérision. Un programme qui a été lancé en 2009 au Kenya et qui depuis fait partie de la culture du pays. Reportage.
C'est un rendez-vous télévisuel quotidien que ne manqueraient les Kenyans pour rien au monde, le XYZ Show, diffusé sur une grande chaîne privée du pays. Des sketchs d'une vingtaine de minutes durant lesquels les grands leaders politiques sont tournés en dérision. Ce jour-là, Rosélie Data Abou, rédactrice en chef, est au montage.
Cet épisode met en scène Uhuru et Raila, le président et le leader de l'opposition. Ils vont consulter un sorcier pour savoir si le changement de la constitution va être validé par les citoyens ou s'ils vont échouer.
Le XYZ Show est tourné ici dans ce grand hangar de la zone industrielle de Nairobi. Teddy Okinda est un marionnettiste et caricaturiste. Il travaille pour l'émission depuis plus de 8 ans.
C'est ici que nous entreposons les marionnettes. Il y en a environ 200. Pour l'instant, elles sont rangées dans des boîtes en attendant la prochaine saison. Voyons si je peux trouver celle de Obama. Obama est très spécial car il est un peu kenyan.
Kind Kenyan as well, so.
Voilà, il est ici Obama. Un peu poussiéreux, mais il a l'air en forme. C'est un personnage fort avec ses oreilles décollées, son visage très expressif.
Dans ces grandes boîtes poussiéreuses, il y a les marionnettes des politiciens kenyans. Ce sont elles les véritables stars du programme.
Là, c'est Kalonzo Musyoka, l'ancien vice-président et ministre. Sa marionnette est l'une des plus populaires parce qu'il a un rire incroyable, tellement absurde. Et les téléspectateurs adorent ça.
Il faut un mois pour fabriquer une marionnette en latex. Mais avant cela, Teddy doit dessiner et connaître le personnage sous toutes ses coutures.
La première étape est de visualiser le visage sous trois angles. Vous voyez ici, sur mon tableau, Emmanuel Macron. Il y a son profil, son portrait et son visage pris de trois quarts. Ce sont les trois angles principaux. Quand je crée des personnages, avant de faire le croquis, je dois regarder les vidéos, les photos, comprendre sa personnalité.
We need to talk.
Not now.
No, I'm serious. We have to talk, my friend.
Talk about what?
Talk about us.
Des sketchs satiriques et humoristiques qui dénoncent des sujets lourds, corruption, magouilles de politiciens, scandales d'hommes d'affaires véreux. Objectif, pousser les téléspectateurs à la réflexion sur des enjeux démocratiques. Rosélie Data Abou, la rédactrice en chef.
Cette émission joue un rôle majeur en informant la société et les téléspectateurs, mais surtout en mettant les politiciens face à leurs responsabilités. Car lorsque nous questionnons ou nous informons le public sur un acte qu'ils ont fait et que les gens commencent à en parler après avoir vu l'émission, alors ils sont obligés de réagir.
Rosélida et son équipe de 60 personnes préparent en ce moment la 15e saison de l'émission. Une saison qui s'annonce intense, marquée par la campagne présidentielle de 2022. Teddy, le marionnettiste, s'en réjouit.
Je suis très excité par les prochaines élections car il va y avoir beaucoup de comédie. Les politiciens sont en général très drôles. Pendant 4 ans, ils profitent de leur vie luxueuse et puis tout à coup, ils veulent prendre des mototaxis, manger du maïs grillé dans la rue. Ils essaient d'être normaux et ça me plaît car cela me donne du contenu.
Hello, Azili.
Les téléspectateurs kenyans ont rendez-vous pour le premier épisode dès janvier prochain.
Reportage de Charlotte Simonard à Nairobi dans une poignée de secondes. Le journal sur RFI, on se retrouve demain bien sûr avec la chanteuse Zaz pour la sortie de son nouvel album Isa chez Parlophone Warner et vous m'en direz des nouvelles.